Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Nous sommes au Canada en public avec le public de Montréal au Salon du Livre. Bonjour Montréal, on est ravis de vous retrouver chaque année ici même. Émission spéciale avec un programme chargé et les auteurs qui font l'événement ici. C'est la 39e édition du Salon du Livre de Montréal et nous sommes donc avec l'un des écrivains les plus populaires en Amérique, lauréat du Man Booker Prize, le prix le plus prestigieux aux USA pour l'histoire de Pi. Yann Martel fait son grand retour avec un roman magique. Il est l'invité d'honneur de ce salon. Autre invitée mise à l'honneur cette année à Montréal, Catherine Mavrikakis, elle publie un roman apocalyptique édité au Québec et en Europe. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour à vous. Nous sommes aussi avec le bédéiste québécois Guy Delisle. Bonjour Guy Delisle.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Très bien. Votre nouveau roman, S'enfuir, raconte la vie réelle d'un otage qui avait fait l'événement d'ailleurs en France à la rentrée. Et ce livre vient de sortir au Canada. Nous donnerons aussi une carte blanche à l'éditeur Mémoire d'Encrier qui porte les littératures du monde avec une performance littéraire et musicale animée par Rodney Saint-Éloi, des auteurs, et le percussionniste Diol Kiddy, musicien notamment du groupe Arcade Fire.
La librairie francophone. Émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Et bien sûr avec nous quatre libraires en Suisse, c'est la pertinente Dominique Bressoux qui est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous vous représentez la France, vous êtes dans votre librairie Goulard, installée à Aix-en-Provence. Il est jeune, il est brillant, Mathieu aussi hein, d'ailleurs, mais les auditeurs l'adorent au Québec, mais qu'est-ce qu'il est sévère parfois. Bonjour Jérémy Laniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, vous êtes applaudi ici, vous êtes libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou, en plateau avec nous, on est ravis de vous retrouver ici. Et enfin depuis la Belgique, c'est notre licorne Déborah Damblon cette semaine. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie La Licorne, donc tout va bien pour vous ?
Tout va très bien.
Très bien, merci à vous d'être avec nous tous les quatre tout au long de cette émission. Bonjour Yann Martel.
Bonjour Emmanuel.
Alors la presse aux États-Unis vous présente comme un magicien. C'est exactement ce que vous êtes Yann. L'histoire de Pi vous a valu le prix littéraire le plus prestigieux aux USA, le Man Booker Prize. Ce livre a été adapté au cinéma par Ang Lee. C'est un livre incroyable, un film magnifique. C'est un vrai choc esthétique et narratif que je conseille à tout le monde. Alors vous êtes canadien, québécois, saskatchewanais, né en Espagne aussi. C'est pour ça que vous produisez comme ça des fresques universelles, des fresques du monde. Ça vient de ce métissage-là ?
Ben, j'ai l'impression que les œuvres qu'on écrit sont un reflet de notre vie. Et moi, c'est un peu les hasards qui m'ont mené à être né en Espagne. Je ne suis pas du tout espagnol. Mes parents sont québécois, mais ils ont fait des études en Espagne. Ouais, Mon père a fait un doctorat à Salamanque. Mais j'étais là une semaine, hein. J'ai vraiment très peu d'influence espagnole. J'avais une semaine, on a déménagé au Portugal et après ça en Alaska. Donc effectivement, j'ai pas mal bourlingué dans ma vie avec mes parents et après ça tout seul. Et ça se reflète un peu quand même dans mes livres.
Ah oui, complètement.
Je suis pas un écrivain de voyage quand même, mais c'est vrai que je prends des scènes étrangères où je mets en scène mes livres, mes histoires.
Alors le nouveau roman, Les Hautes Montagnes du Portugal, est publié chez Grasset en Europe et chez XYZ au Canada. C'est une nouvelle fois un livre époustouflant. Vous illustrez parfaitement la magie que peut procurer la littérature, Yann Martel. C'est un livre-monde un peu à la Garcia Marquez qui décrypte le destin, la vie guidée par le destin. C'est une préoccupation chez vous, ça ?
Vous me flattez à me comparer à Marquez. J'étais étourdi par votre flatterie de me comparer à Marquez. C'était quoi la question encore ?
Je vais arrêter les compliments après, je vous promets. C'est une préoccupation, le destin, la vie qui est guidée souvent par le destin, parce qu'on retrouvait ça chez l'histoire de Pi.
Oui, mais écoutez, moi, à l'université, j'ai fait des études de philosophie, pas de littérature vraiment. Alors, j'ai peut-être un côté philosophe. Pour moi, c'est tellement de travail écrire un livre que c'est un outil majeur. Je vais vraiment examiner ma vie, la vie, la condition humaine. Alors, et aussi, j'écris très lentement. Alors, quitte à travailler lentement, autant essayer de faire quelque chose de profond, de creuser profondément. Ouais. Alors, mais donc, c'est un peu ma nature, je crois, d'examiner, de réfléchir aux choses et... Pour moi, le meilleur biais, c'est la littérature. C'est comme ça qu'on a vraiment une vue globale et profonde de l'être humain. C'est par le biais des histoires.
Et comment on échappe à un destin malheureux ? Comment on fait pour le déjouer ? Parce que vos personnages, ils ont tous un destin malheureux, a priori.
C'était le point de départ avec les hautes montagnes du Portugal. Je voulais voir que font les gens quand ils sont malheureux. Quels outils ont-ils pour se sortir du malheur? Et de façon plus précise dans ce roman-ci, c'est pour ça qu'il y a une certaine, il fait un certain, de certains sons écho à l'histoire de Pi. Moi, je suis un petit enfant de la Révolution tranquille. J'ai grandement, avec aucune religion, quand j'ai grandissais, mes parents détestaient la religion. La religion était remplacée par l'art, donc j'ai grandi en lisant, regardant, écoutant, mais en ne croyant rien. Et c'est à cause d'un voyage en Inde que j'ai découvert la religion et l'aspect plus positif de la religion, cet acte imaginaire de croire en quelque chose pour lequel on n'a aucune preuve. Mmh. C'est ça qui m'a vraiment frappé. Et j'ai fait ce parallèle entre la lecture d'un roman et la croyance en un dieu. Les deux sont un peu des fictions qu'on se raconte, qui améliorent, qui changent la vie.
Si je peux me permettre pour resituer, c'est qu'on a Thomas, personnage qui a perdu dans la même semaine son fils, sa femme et son père.
Exactement.
Alors il va partir en quête d'un artefact insolite qui peut bouleverser la chrétienté, un crucifix qui livre un message. Il y aurait une révélation.
Oui.
Et donc il va prendre son destin en main en se donnant cette mission-là, de partir sur les routes entre Lisbonne et les hautes montagnes du Portugal. Mais on est au tout début du XXe siècle, en 1900-1903, et il part avec la première automobile.
Une des premières automobiles au Portugal, une Renault.
Une Renault, 4 cylindres.
Qui est vraiment... Et à cette époque-là, conduire une automobile, c'était tellement de travail. Il fallait être ingénieur, c'était vraiment un travail. Et effectivement, c'est un homme qui est dépassé par la technologie, un homme qui est poussé par la colère. Il veut se rendre au nord-est du Portugal. De nos jours, on pense que le Portugal est un tout petit pays, mais en 1905, se rendre de Lisbonne au nord-est du pays, c'était pas évident.
Ah, c'est une vraie expédition,
Alors, donc lui, c'est un homme qui est poussé par la colère. Je voulais en fait trois approches différentes à la souffrance et surtout en relation avec la foi. C'est pour ça que je mentionnais ça avec l'histoire de Pi, la religion. C'est aucunement un roman religion, c'est plutôt un roman qui examine ce que peut apporter la foi à ceux qui s'intéressent à la foi, qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un.
Alors, il y a notre libraire du Québec à côté de vous, Yann Martel, très critique, vous l'avez compris, il dit ce qu'il pense dans cette émission, Liberté Totale, et il a lu votre livre comme moi. Alors, Jérémy Laniel, qu'avez-vous pensé de cet ouvrage?
J'ai une étrange relation avec ce livre-là, parce que bon, j'ai lu à sa sortie, ça fait quand même maintenant 8 mois, et c'est un livre qui, à sa lecture, ne m'avait pas tant enthousiasmé que ça, mais je me suis rendu compte en travaillant pour l'émission que c'est un livre qui m'a accompagné longtemps. Le questionnement sur la spiritualité, mais surtout sur la modernité des personnages, est resté très présente. Puis que dire vraiment du moment délectable où est-ce qu'on tisse des liens entre Jésus-Christ et Agatha Christie, ça c'est grandiose, vraiment. Force est de constater que c'est vraiment le genre de roman qui percole chez son lecteur, et ça c'est loin d'être une mauvaise nouvelle.
Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses. C'est incroyable, Yann Martel. Moi, je suis très, très impressionné par ce livre-là, par l'histoire de Pi aussi. J'avais d'abord vu le film, pour tout vous avouer, et après, j'ai lu le livre. Et il y a des choses incroyables qui se passent. À chaque fois, je ne sais pas comment vous faites, il se passe des choses complètement improbables. A priori, on se dit, bon, c'est perdu d'avance, et ça marche à chaque fois. Agatha Christie, par exemple, comparée à Jésus-Christ. Enfin, c'est...
une fois de plus, là, je me...
Il est gêné.
Une des choses que j'ai faites, des fois de façon consciente, des fois inconsciente, c'était inconscient avec l'histoire de Pi, mais j'aime bien si on met des choses insolites l'une à côté de l'autre, qu'on voit en fait qu'il y a certaines ressemblances et certains échos. Et donc, Agatha Christie, c'est un exemple parfait. J'ai toujours aimé Agatha Christie. Elle raconte des romans policiers parfaits. Vraiment, elle est vraiment à la hauteur de son ambition. Ouais. Et donc, j'avais toujours aimé. Et un jour, je me suis posé la question, pourquoi est-elle tellement populaire? Parce que n'oublions pas, Agatha Christie est l'auteur la plus vendue de l'histoire de la littérature, toute culture confondue. Elle s'est vendue à 6 milliards d'exemplaires. Et je me dis, pourquoi? C'est sûr qu'elle écrit des bons romans policiers, mais pourquoi est-ce qu'elle se vendrait plus que d'autres très très bons romans? Pourquoi elle? Et je me suis rendu compte, c'est parce qu'elle parle de la mort. Elle a le même effet finalement qu'avaient les évangiles, où Jésus a parlé de la mort, et il a rendu la mort, on en a moins peur en lisant les évangiles, puisque la mort là, est en fait un point de transition simplement. Agatha Christie, bon, je sais pas, elle n'est pas prophète, mais elle rend la mort tellement divertissant. Qu'on lit un de ses romans, on a passé 2, 3, 4, 5 heures à lire, à côtoyer la mort, et donc par pur côté divertissement, on en a un peu moins peur.
Oui, c'est ça. Alors c'est ce que vous faites parce que vous abordez le deuil avec beaucoup d'esprit positif et avec du fantastique aussi. Il y a ces personnages qui marchent à reculons, on peut pas tout dire, Yann Martel, mais c'est magnifique cette image des personnages qui marchent à reculons parce que ils ont décidé de protester face à la vie qui leur a enlevé les amours de leur vie. Voilà, c'est sublime. Il y a un singe. Alors, dans l'histoire de Pi, il y avait un tigre. Et là, il y a un singe. Vous avez un problème affectif avec les animaux?
C'est un bon outil narratif. En fait, je me sers d'animaux pas vraiment pour des raisons sentimentales. J'aime bien les animaux comme tout le monde, quoi. Mais c'est vraiment comme écrivain, je trouve que c'est un bon outil littéraire. On peut raconter tellement d'histoires avec un animal. Ouais, parce qu'un animal est ce qu'il est, mais c'est aussi très facilement un symbole. On a tendance à tellement projeter sur les animaux que c'est purement pour le côté technique, c'est très utile de se servir d'animaux. Et peu d'écrivains pour adultes se servent d'animaux.
Et le singe
oui, exactement.
Est à l'affiche
du salon du livre
de Montréal. Ouais, je le montre au public, donc voilà, c'est un hommage. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, voilà, le singe est à l'honneur du salon du livre de Montréal. Merci beaucoup Yann Martel. Vous restez bien sûr avec nous. Les Hautes Montagnes du Portugal, paru chez Grasset et chez XYZ. Si vous ne connaissez pas Yann Martel, vous allez faire une grande découverte. Et n'oubliez pas l'histoire de Pi. Voilà, ça aussi, c'est magnifique. Merci Yann.
Merci
Emmanuel. Infiniment. Et bonjour Catherine Mavrikakis.
Bonjour.
Vous êtes aussi invitée d'honneur du Salon du Livre de Montréal. On vous suit depuis plusieurs années dans la librairie francophone. Vous publiez votre 9e roman chez Heliotrope au Canada et chez Sabine Weisspieser en Europe. Mm-hmm. Oscar de Profondis, c'est une fable apocalyptique. On est à Montréal, dans le futur. Les pauvres sont nommés les gueux. Les riches ont quitté la ville, comme partout dans le monde. Mm-hmm. La langue française a quasiment disparu. Il y a une maladie mystérieuse qui décime les gueux. Qu'est-ce que c'est que ce livre, Catherine ? C'est un enfer absolu.
Oui, peut-être. J'ai été très inspirée par la réalité, pour vous dire.
Ah, carrément,
oui. Carrément, oui. Je vis dans un quartier relativement aisé. Et devant chez moi, il y a beaucoup de sans-abri, de gens qui sont au coin de Jeanne-Mance et Sherbrooke et qui souffrent. Et il me semblait que c'était 2061, parce que ça se passe à ce moment-là,
ouais.
Mais que c'était aussi maintenant. Et
ça pouvait arriver. Ça peut arriver.
Ouais. C'est là. Pour moi, c'est un peu...
À ce point-là.
Il y a des moments comme ça. Je trouve que moi, mon travail, c'est de voir les choses en les exagérant.
Ah, mais ça, c'est sûr.
C'est sûr. Et donc, j'avais pas l'impression de faire un roman particulièrement utopique.
Ah non, mais ça c'est sûr.
Ni une dystopie. J'avais l'impression de grossir un peu les traits de la réalité, mais de nous permettre de voir la réalité. Mais
alors, vous exagérez un peu. À tel point, je sais qu'un jour, ici, sur ce Salon du Livre de Montréal, il y a quelqu'un qui est venu vous voir pour une signature et qui vous a dit, si vous avez des problèmes, on va vous aider.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça dans la vie. Ils sont plus optimistes que moi.
Bon, on va vous aider, Catherine. On va écouter la BO du roman. D'accord. Vous connaissez cette séquence. On vous a demandé de nous mettre dans l'ambiance de votre livre. Donc, la BO du roman, c'est un peu la bande originale, comme au cinéma. Mm-hmm. Et vous avez choisi Marilyn Manson. Ça continue. You're so vain. On écoute un extrait et vous nous expliquez. Catherine Mavrikakis, habillée de noir, avec des colliers, une chevelure blonde, très maquillée, comme Marilyn Manson.
N'exagérons rien.
Mais non, je décris simplement, Catherine. Pourquoi Marilyn Manson ?
Pourquoi Marilyn Manson ? Parce que, c'était You're So Vain que je voulais écouter, mais je voulais cette version-là parce que c'est une reprise d'une chanson. Marilyn Manson le reprend de façon violente et... Bon, très personnel. Mais Marilyn Manson, parce que c'est une vedette planétaire, comme mon personnage Oscar des Profondis. Et j'avais été très frappée parce que j'avais vu une entrevue qui avait eu lieu en France de Marilyn Manson, une entrevue en français, où Marilyn Manson disait combien il avait été inspiré par la littérature française, par Antonin Artaud, par Baudelaire, par Beckett.
Et c'est le cas de votre personnage.
Personnage.
Mais alors, c'est vrai que votre personnage, il se bat comme ça pour défendre la littérature francophone. Et il semble que la francophonie dans votre livre est devenue finalement un acte de résistance.
Oui, je le crois vraiment. Je crois que la francophonie devrait disparaître si toutes les conditions continuent à être les nôtres. Mmh. Mais qu'il faut y résister, particulièrement en Amérique du Nord, c'est ça la question. Ouais. Et qu'il faut y résister. Et que ces moyens pour y résister peuvent être des moyens un peu arbitraires. Et qu'un chanteur pop qui serait capable de faire entrer le français et devenir une vedette mondiale pourrait permettre à la littérature et aux français d'exister. Ouais. Donc c'était... Je voulais essayer de dire que les combats politiques, bien sûr, mais qu'il y a des combats artistiques aussi qui peuvent aider le sort du français en Amérique du Nord.
Et comme le siècle des Lumières a été déterminant, vous pensez qu'il faut renforcer la culture francophone mondiale ?
Oui, pourquoi pas.
Ah, mais non, on est pour, hein. Moi, je suis le premier à vous dire oui.
Pourquoi pas, je crois que ça serait pas une mauvaise idée.
Très bien. Allez, on va voir du côté des libraires, Catherine Mavrikakis. Déborah Damblon en Belgique, ça vous va ? Catherine, oui, ça a l'air d'aller.
Oui.
Oui, ça va. Vous avez une déclaration à faire, Déborah.
Oui, une déclaration à Madame Mavrikakis. Je tiens à vous exprimer vraiment toute mon admiration. Parce que ça fait un moment que je vous lis. Et puis chaque fois, vous m'emmenez dans un lieu, mais diamétralement opposé à celui de votre roman précédent. Et c'est risqué, c'est courageux, et vraiment, je trouve ça admirable. Alors, dans celui-ci, bon, je dois dire que j'ai plus été emportée par votre univers que par le récit lui-même, mais il y a aussi, et puis surtout, toutes vos références qui sont nombreuses à m'avoir touchée et puis qui m'ont remuée au point de faire remonter bien d'autres souvenirs de lecture.
Mais c'est gentil.
Beaucoup de références, oui, le rock, la littérature, il y a plein de choses. Dominique Bressou, en Suisse, êtes-vous d'accord ?
Oui, tout à fait. Madame Mavrikakis, vous avez parfaitement traduit à mon goût dans votre roman les peurs très actuelles de voir un jour les pauvres et les exclus mourir dans la rue. Et la suppression des livres... Pour moi, c'est à mettre en parallèle avec 1984, le chef-d'œuvre de George Orwell. Et bien que je classe votre roman dans la catégorie diamant, c'est dur, c'est brillant, mille facettes, d'une très grande beauté dans l'écriture, il est terrifiant. Et j'espère vraiment que vous n'êtes pas visionnaire.
Je l'espère aussi.
Oscar de Profondis, donc le nouveau roman de Catherine Mavrikakis, publié au Canada et en Europe. Vous écrivez qu'Oscar est la figure moderne de l'antéchrist. Il a une responsabilité alors dans cette décadence mondiale.
Oui, il a une responsabilité, mais je crois que malgré tout le mal que Oscar peut apporter, malgré lui, il est capable d'avoir des éléments bénéfiques en lui. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui participe à ce monde, mais qui... vraiment malgré lui arrive à sauver quelque chose du français, à sauver quelque chose de la culture. Il collectionne les corps,
ouais,
c'est ça, les corps des grands écrivains et il va les enterrer dans un cimetière une nécropole aux États-Unis parce qu'il veut réunir tous ces morts célèbres. Bon, il est très macabre, mais je crois que je voulais aussi montrer que la culture, elle peut se être conservée par des excentriques et des gens qui pourrait nous surprendre.
Oui, alors c'est la décadence quand même. Abordons un sujet qui fâche Catherine devant le public du Salon du Livre de Montréal.
Allons-y,
là.
Allons-y.
Pensez-vous que certains artistes, voire certains écrivains, portent aujourd'hui, par leur médiocrité, une responsabilité dans l'affaiblissement culturel ?
Oh, mais vous ne me fâchez pas du tout, c'est une très bonne question.
Oui,
complètement. Oui, c'est-à-dire, je pense que il y a une responsabilité des artistes à essayer de ne pas toujours plaire au public. Il y a aussi une responsabilité des artistes à... Et ça ne veut pas dire du tout ne pas être commercial, parce qu'on peut être excellent. Ouais. Mais je crois qu'il y a vraiment... l'artiste, pour moi, j'ai une vision très romantique, hein, je le sais bien, il y a quelque chose de Victor Hugo. Mais pour moi, l'artiste doit essayer de faire en sorte que le lecteur et la lectrice voient quelque chose de plus grand qu'eux.
Voilà,
et
la qualité, c'est
exactement.
Ça. Exactement. Ouais. Qui porte la médiocrité ? Non, je plaisante.
Là, vous allez me fâcher pour de vrai.
Enfin, vous allez fâcher des gens, surtout. Merci beaucoup, Catherine Mavrikakis. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Catherine Mavrikakis, Oscar de Profondis, publié chez Heliotrope et chez Sabine Vespizer. Bon Salon du Livre, restez avec nous dans un instant. Une performance littéraire et musicale unique. On va tenter une expérience avec un hymne aux cultures du monde. On poursuit cette émission justement en musique avec un hommage. C'était un grand artiste canadien de Montréal. Sa disparition la semaine dernière a ému le globe. Leonard Cohen a fait vibrer les auditeurs avec ses chansons en anglais, mais il a aussi chanté en français. comme ce titre de légende, cette reprise, la manique que vous connaissez ici, que nous connaissons tous et que nous offrons à tous ces fans et au public de la librairie francophone ici à Montréal.
Si tu savais comment s'ennuyer à la manique, tu m'écœurais bien plus souvent à la manique, quoi. Parfois je pense à toi si fort, je le crée ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi, comme le fleuve dans la mer et la fleur dans la baie. Que devienne quand je suis pas là, mon bel amour, ton froid de comme fine soie et tes yeux de velours. Elle me trouvera côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma mère qui te fait signe d'attendre. Soir et matin, je tends les bras, je te rejoins que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie attend de faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où tout est toujours la plus belle. Car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. À cœur de jour, mais on est tous des bons errants, cloués leurs amours. Il y en a qui jouent la guitare, d'autres qui jouent l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue le mélisson et je danse en disant ton nom. Tellement je t'aime. Si tu savais comment on s'ennuie à la manie, tu m'écœurais bien plus souvent à la manie, quoi. Si tu n'as pas grand chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ça fera le plus beau des poèmes. Je le dirai 100 fois, 100 fois, 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment.
Léonard Cohen, La Manique, une reprise de cette chanson de Georges Dor qui fait partie du patrimoine musical du Québec.
La librairie francophone. Une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Nous sommes à Montréal au Salon du Livre avec le public qui nous accompagne, qui est très nombreux ici comme chaque année. Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vous parlent de leur coup de cœur et de leur coup de gueule. Ils ont carte blanche. Cap sur la Belgique tout de suite avec vous, Déborah Damblon, dans le rayon des bandes dessinées. Coup de gueule ou coup de cœur ?
Un grand, grand, grand coup de cœur pour la petite BDTech des savoirs. Vous savez, hein, ça, Emmanuel, c'est une collection qui est toute petite en taille et puis qui est énorme en qualité.
Oui, c'est vrai.
Parce que chaque fois, il y a un auteur de très, très grand renom et un illustrateur de BD. Et puis tous les deux, ils prêtent leur talent à des sujets aussi divers et passionnants que l'art moderne, l'univers, vous vous souvenez, le féminisme. Et puis je vous laisse découvrir tout le reste.
Exactement, la petite BDTech des savoirs, il faut absolument lire ces livres, des bandes dessinées qui nous apprennent plein de choses. Et Hubert Rive Reeves, d'ailleurs, avait participé à la librairie francophone pour le tome 2, L'Univers. Merci beaucoup, Déborah. En Suisse, Dominique Bressoux, un coup de gueule, je crois, Dominique.
Ah oui, clairement un coup de gueule contre une écrivain qui a tourné à l'écrit veine. Je vous la fais en devinette. Un grand chapeau noir, un rouge à lèvres très rouge sur un visage très pâle en couverture, et la énième narration d'un séjour au Japon où un conte revisité toujours de la même façon.
Oui.
Et oui, c'est Amélie Nothomb. Elle nous assène chaque année un livre au même nombre de pages, à la même date. Alors après Stupeur et tremblement ou Métaphysique des tubes, plus de risques, plus d'inspiration géniale, ça serait trop triste. Alors on va y croire et on attend chaque année le suivant.
Très bien. Amélie Nothomb que l'on salue quand même, vous exagérez, mais elle est pas suisse Amélie Nothomb en plus.
Non, elle est même, mais écoutez.
C'est un règlement de compte francophone.
C'est, bon. Mais la déception est d'autant plus grande que l'attente est grande.
Évidemment. Merci Dominique.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Voilà, j'ai changé de plateau. En fait, on a deux plateaux ici même. Je me suis décalé un tout petit peu avec Rodney Saint-Éloi qui est avec nous depuis le Québec, ici au 39e Salon du Livre de Montréal. Pour la première fois dans cette émission, nous avons donné carte blanche à un éditeur. Mémoire d'Encrier porte les littératures du monde avec une influence très haïtienne puisque son fondateur, l'écrivain et poète Rodney Saint-Éloi, est haïtien. Bonjour Rodney.
Bonjour Emmanuel.
On a préparé avec vous cette séquence. On va improviser ensemble. Avec nous, il y a des invités que vous avez choisis.
Oui.
Deux musiciens, le percussionniste Diol Kidi, immense musicien haïtien qui joue avec Arcade Fire, qui est juste là. Bonjour Diol Kidi, merci à vous. Vous êtes accompagné par le bassiste Steven Rachel qui est derrière et qui vont jouer au fur et à mesure que nous allons dérouler cette séquence. Alors on va piocher dans votre bibliothèque, Rodney Saint-Éloi. Parmi les livres que vous éditez, il y a bien sûr Les Haïtiens d'Annie Laferrière et Franck Étienne.
Oui, Franck Étienne est assis à Port-au-Prince sur sa galerie. Et il attend après Bob Dylan le prix Nobel. Il m'a appelé en me disant ce sera l'année prochaine. Et l'espoir fait vivre. Il me dit je vais pas mourir sans le Nobel. Et donc on l'a publié. On continuera de le publier parce qu'en fait je pense qu'il a un imaginaire du monde qui nous fait grandir.
Ah, il n'y a pas que, hein, Mémoire d'Encrier s'ouvre sur les littératures du monde. Franz Fanon, Aimé Césaire, par exemple, les Martiniquais. Pourquoi vous portez
en
ces
fait,
voix de la littérature
Fanon, créole? Franz Fanon, c'est l'enthousiasme de la Révolution. Parce qu'il y a un certain nombre de mots qui existent et qu'on oublie que ces mots existent. Les mots existent et les choses aussi, comme la vérité, la justice, la Révolution. Et aussi les damnés de la Terre, il y en a. Il y a les damnés de la Terre. On a peur de les regarder et grâce à Franz Fanon, on assiste en fait à une remontée en humanité. Il faut toujours y penser.
On
à
va
cette
demander,
remontée de l'humanité. Et Aimé Césaire, justement, parce qu'il nous invite à regarder demain, parce que demain aussi existe. Il nous faut regarder demain avec sérénité, malgré les bêtises auxquelles on assiste, malgré les tromperies, on est debout et on va continuer à être debout.
On va demander, vous pouvez applaudir, hein, René Saint-Éloi, parce que tout le monde vous écoute avec beaucoup d'attention ici. On va demander à Diol Kidi ce que lui inspire en musique Franz Fanon et Aimé Césaire. Ça donnerait quoi instantanément, là, l'inspiration? Voilà cette musique inspirée par Aimé Césaire. Rodney Saint-Éloi, vous vouliez aussi parler de Joséphine Bacon, qui est une poétesse inoue que vous publiez. Et là, c'est un acte culturel, politique, parce que vous mettez en lumière la culture autochtone.
En fait, c'est la littérature, elle est d'abord politique pour moi. Quand je lis ce poème de Joséphine Bacon, je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Donc, en fait, pour moi, c'est important qu'une Amérindienne puisse regarder le monde en voyant la beauté du monde en disant « je me suis faite belle ». Et ensuite en disant qu'elle est survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Et je pense que le rôle de la littérature, c'est justement de raconter ces récits qu'on ne raconte pas. Parce qu'il y a tellement de récits, quand on s'enferme dans son propre récit, on ne voit pas le monde. Mm-hmm. Et on ne peut pas changer le monde si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans cette grande complexité qu'est le monde.
Et avec cette maison d'édition, allez-y, je vous en prie, vous m'avez dit vouloir défendre la diversité, aussi une forme d'exclusion. Quel genre d'exclusion?
Oui, la diversité pour nous, c'est vraiment le combat contre le racisme, parce qu'on refuse de nommer les mots, le combat contre l'ignorance. En fait, les mots existent, il faut les utiliser. Il faut dire aux gens qu'il faut vivre avec les livres, qu'il faut vivre avec la littérature. La littérature nous dégrossit, la littérature nous rend beau, nous rend juste et nous rend humain. Parce qu'on a tendance à perdre notre humanité. Nous ne sommes pas des animaux. Donc, on vit avec des histoires. Et ce sont ces histoires qu'à Mémoire d'un crié, on fait circuler des histoires d'Amérindiens, des histoires d'Haïtiens, des histoires d'Africains, pour qu'on les respecte, des histoires d'Arabes, pour qu'on voit que ce sont des humains. On a oublié trop souvent que ce sont des humains. Et je pense que le rôle de la littérature et notre responsabilité en tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur, est aujourd'hui plus que jamais essentiel.
Alors, vous allez lire Jean-Claude Charles. C'est un auteur auquel vous tenez beaucoup. C'est un auteur haïtien, un grand écrivain, vraiment reconnu dans le monde entier, en tout cas reconnu par les écrivains créoles particulièrement.
Je reprends toute l'œuvre de Jean-Claude Charles parce que c'est une injustice, parce que je pense que tout le monde devait connaître, devait lire, relire Jean-Claude Charles. Ce livre, Manhattan Blues, c'était le livre préféré de Marguerite Duras, et puis on l'a oublié. Personne ne lit, et puis bon, moi je suis content, je lis Jean-Claude Charles, je relis. Je vais vous lire un court extrait, c'est sur le racisme.
Alors attendez, on va laisser Joel Kiddy et Steven Rachel vous accompagner en musique. C'est le son du monde de la semaine. Jean-Claude Charles, lu par René Saint-Éloi avec cette musique, emmenée par Joel Kiddy.
Le racisme d'un regard est le plus perfide qui soit. Il ne parle pas, il ne frappe pas, il n'émet pas d'insultes audibles. Il est là. Son destinataire ne saurait s'y tromper. C'est une sensation qu'aucune personne non victime de discrimination ne peut connaître, parce que ça ne fait pas partie de son expérience du monde. Ce n'est prévu dans aucune analyse. Ça n'est pas disséqué, il n'y a pas de loi. Et il est souhaitable qu'il n'y ait pas. Contre ça, il ne s'agit pas de paranoïa. D'habitude, ou bien je ne fais pas attention, ou bien je m'en contrefiche. J'imagine que des femmes ont su ressentir cette chose innommable dans certaines circonstances, ou des Arabes, ou des Juifs, ou n'importe qui susceptible d'être violé, lynché, tabassé, gazé. On ne peut jamais dire « Monsieur, Madame, votre regard porte atteinte à. Il n'y a pas de code sûr en la matière. »
Voilà cette musique de Joel Kiddy. Merci beaucoup avec Steven Rachel, Rodney Saint-Éloi et ce texte magnifique, Manhattan Blues, un extrait de Manhattan Blues de Jean-Claude Charles. Bonjour Wanessa Younsi.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une figure nouvelle de la littérature québécoise, invitée par Rodney Saint-Éloi dans cette carte blanche à Mémoire d'Encrier, née d'un père algérien et d'une mère québécoise dans un petit village autour de Québec. Vous êtes poète et psychiatre et vous venez de publier Soigner, aimer, un livre atypique qui évoque votre vie de soignante avec un récit en poésie chargé d'empathie, car vous dites « pour soigner, il faut aimer ».
Oui, effectivement. En fait, j'ai une mentor en psychiatrie qui disait que quand le patient entre dans le bureau, on doit trouver quelque chose à aimer chez lui, sinon on ne pourra pas l'aider. Et donc, ça m'a toujours inspirée. Et avec les progrès de la technique, je crois que la médecine oublie qu'elle est aussi un art et que nous sommes encore des humains et que cela nous définit. Cette vulnérabilité, cette écoute, cette empathie est nécessaire parce que autrement, les gens ne prendront pas nos traitements, ne feront pas confiance en notre médecine.
Alors, c'est un vrai plaidoyer, hein, Wanessa. Ça résonne vraiment en nous, ça peut résonner en chacun d'entre nous, où que l'on soit dans le monde, parce que vous alertez le corps médical, vous alertez les patients aussi sur la nécessité d'humaniser nos relations médicales, à une époque où, parfois, ce sont les robots qui remplacent les chirurgiens. C'est ça
oui.
Le paradoxe.
Oui, oui. Ben, en fait, j'aime dire que les psychiatres, on va être les derniers à être remplacés par des robots.
Ah oui, ça, hein? Oui, c'est probable.
Oui, parce qu'en fait, la psychiatrie, c'est vraiment l'art de la relation. Hein? Souvent, les gens qui viennent nous voir ne croient pas qu'ils sont malades. Et donc, c'est tout un défi d'avoir leur confiance, de les écouter. Je crois donc que oui, ça prend cette humanité, cet art de la relation.
Vous allez lire un extrait de ce livre sur la musique de Joel Kiddy et de Steven Rachel. Thank you.
Il me demande s'il peut fumer. Ça dépend si tu veux te tuer. Il répond non. Il a raison. La vie est belle comme les caribous. Peux-tu m'apprendre à parler? Comment dis-tu bonjour? Au revoir? Comment dis-tu médecin? Il me dévisage ébahi. Je n'ai pas l'accent. On recommence à soigner les plaies de 4 siècles, tandis que pétarade les solutés. Je pars en voyage avec plus seul que moi et on échange des crevasses. Je reviens de beaucoup. La vie reste le dernier geste.
Magnifique. Wanessa Younsi, vous dites que soigner demande humilité et vos patients, vous dites les admirer tout simplement. Une grande admiration.
Oui. Moi, j'admire beaucoup. Puis en fait, c'est intéressant parce que j'ai entendu une fois cette histoire d'un anthropologue qui demandait à un guérisseur « Comment êtes-vous devenu médecin? » Et il a répondu « J'ai commencé par être malade. » Parce que c'est très difficile, de la maladie, cette position-là. Et moi, je les admire énormément. Je trouve qu'ils ont beaucoup de courage, beaucoup plus que moi. Vraiment, ils ont tous mon admiration.
Bravo, merci beaucoup. Félicitations pour cette démarche. René Saint-Éloi, c'est une fierté, hein, je suppose, de révéler comme ça des auteurs, de publier de jeunes auteurs.
Ah, moi, j'ai révélé rien. C'est elle qui m'a révélé, comme Natacha Canapé-Fontaine, qui est venue ici.
Comme oui, qu'on a vu passer, oui. Qu'on a reçu d'ailleurs dans cette émission. Oui. Merci beaucoup, René, de nous avoir fait découvrir tous ces auteurs. Vous avez publié vous-même Passion Haïti, qui nous fait découvrir ce pays sous tous ses aspects, livre édité par les éditions du Septentrion dans la collection Amac Carnet. Merci, René. Vous pouvez applaudir. Merci. René Saint-Éloi, Diol Kidi, Steven Rachet. Et avec ce son du monde grand format, nous avons une pensée émue pour Malek Chebel, ami de la librairie francophone qui est décédé brutalement la semaine dernière à l'âge de 63 ans. Anthropologue, fervent défenseur de l'islam des Lumières, il va considérablement manquer à la francophonie. C'était un homme généreux, humaniste, qui jouait à nos côtés un rôle très important dans cette lutte incessante face au fondamentalisme. On pense à toute la famille et aux amis de Malek Chebel. Merci beaucoup. On va terminer en musique avec Diol Kidi et les percussions de Diol Kidi, la contrebasse de Steven Rachel, qui vont m'accompagner jusqu'à un stand qui se trouve juste en face. Il y a un immense auteur que vous connaissez, que je connais très bien, et que je tiens à saluer parce qu'il est juste derrière. Alors attendez, vous pouvez jouer, oui. Voilà, on passe derrière la régie avec le public. Je reviens, hein, ne bougez pas. Juste derrière le stand, c'est une surprise, c'est inattendu, c'était pas prévu, mais on l'a vu passer tout à l'heure, et il est juste là, au stand 261, avec du monde, il y a déjà beaucoup de monde, et on est dans la librairie francophone en direct. Bonjour Michel Tremblay.
Bonjour, ça va bien.
Comment allez-vous Michel?
Ça va bien, je suis en train de répondre à des questions... À des enfants, quel âge vous avez? 12 ans, 13 ans, non plus. 12,
alors voilà. Oui, c'est vrai que ce sont de jeunes enfants qui sont à côté de vous. Bon, merci Michel de répondre à nos questions de façon impromptue. Comme ça, vous êtes très fidèle au Salon du Livre de Montréal.
Oui, c'est mon 39e, c'est le 39e Salon du Livre et c'est mon 39e.
Ah oui, chaque année vous venez ici.
Ouais. C'est un rendez-vous que je donne à mes lecteurs.
Est-ce qu'il y a des lecteurs qui vous ont surpris d'ailleurs, avec des réflexions, des remarques? Vous avez eu des surprises en 39 ans?
Ben, c'est-à-dire qu'autrefois, il y a une dizaine d'années, il y avait encore des gens qui ne m'aimaient pas. Alors, il m'arrivait de me faire crier des insultes, surtout des étudiants qui venaient me dire que leur professeur ne m'aimait pas. Et je leur disais, ben lisez-moi, choisissez-vous, faites votre choix, peut-être vous allez m'aimer, on ne sait pas. Mais ça m'arrivait assez souvent. Maintenant, ça m'arrive plus, malheureusement, parce que c'est bien d'avoir des ennemis.
Bon, vous gardez votre humour comme d'habitude. Merci beaucoup, Michel Tremblay.
Plaisir, au revoir.
Moi aussi, vraiment. Votre nouveau roman, Conversation avec un enfant curieux, est paru chez Le Méac et Actes Sud. À bientôt, Michel. Merci beaucoup. Allez, je retourne sur le stand de Radio-Canada qui est juste derrière avec le public qui est là et qui nous accueille à suivre Guy Delisle et la chronique des libraires. et dans cette plus grande librairie du monde, on reste dans le rayon des romans. Avec vous, Jérémy Laniel, je suis arrivé sur la table, attention. Coup de gueule ou coup de cœur, Jérémy ?
Coup de gueule, pas coup de gueule, mais coup de cœur, bien sûr, mais vous m'avez un peu volé avec vos présentations impromptues. Moi, je parle de Michel Tremblay, on demande meilleur roman, meilleur vendeur roman, et c'est bien sûr Michel Tremblay.
Il vous entend là-bas, j'espère. Ouais.
On l'a reçu à la librairie Carcajou, donc ça allait être dans les ventes quand on a pu célébrer vraiment l'apparition de cette conversation avec un enfant curieux. Un livre qui revient vraiment dans la veine de bonbons assortis dans les souvenirs d'enfance qui semble assez inépuisable chez Michel Tremblay. On y revient toujours. Ce qui est intéressant, par contre, ici, c'est vraiment le jeu sur le dialogue. On est vraiment dans un angle qui est théâtral. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu Michel Tremblay dans cette concision-là. C'est un livre franchement drôle, parfait, je dirais, pour la période des fêtes.
Très bien. Et je l'ai donné tout à l'heure, c'est chez Actes Sud, le
meilleur. Oui, voilà, c'est ça, c'est fait.
Double promotion pour Michel Tremblay. Merci, Jérémy. La semaine prochaine, nous serons une nouvelle fois en public, mais cette fois à Paris, au salon Radio France Fête le Livre, à la Maison de la Radio. Enregistrement vendredi 25 novembre au studio 106. Vous pouvez retirer vos places sur le site internet de Radio France ou sur Facebook, Emmanuel Queyrade avec le lien dédié. Attention, le nombre de places est limité. Rebonjour Guy Delisle.
Bonjour.
Alors, vous présentez votre nouvelle BD, S'enfuir, récit d'un otage, ici à Montréal. Cet otage, c'est Christophe André, un humanitaire enlevé en 97. Il a réussi à s'échapper après 111 jours de détention. On allait le tuer, vous pensez ? Il vous a confié ça, lui ?
Il y avait une rançon surtout, donc c'était plutôt une question d'argent.
Ouais.
À l'époque, on n'était pas encore passé à l'étape de décapiter les otages, non ?
Ouais, mais il a eu peur.
C'était pas
même,
la mode encore.
Ouais, c'était pas la mode, ouais. Sacrée mode. En tout cas, c'est horrible. Hein. Cette histoire est affreuse parce qu'il a vraiment failli laisser sa peau.
Oui, après lui, il se sent pas victime de cette histoire parce qu'il s'est senti grandi, parce qu'il est obligé de passer par des étapes qu'il n'aurait jamais vécues dans sa vie et de se dépasser d'une façon qu'il n'aurait jamais faite non plus.
On poursuit cette conversation après un chanteur dont vous vous souvenez tous avec son titre 1990. Eh bien, il est de retour avec un album qui connaît ici au Québec un grand succès depuis sa sortie. Voici Jean Leloup avec Paradis City.
Les marionnettes du temps qui s'arrête. Tous les chemins.
Jean Leloup avec un extrait de son dernier album et un titre très populaire à Montréal sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Nous sommes au Salon du Livre de Montréal, au Canada cette semaine. Guy Delisle est avec nous pour sa nouvelle BD, grosse BD de 420 pages, S'enfuit, récit d'un otage, est paru aux éditions d'Argo. C'était l'un des événements de la rentrée en France. Le lancement officiel au Canada a lieu cette semaine. Vous êtes Québécois, Guy, mais vous vivez en France. Pourquoi êtes-vous parti, tiens?
Ben, comme beaucoup de Québécois, je suis parti sac à dos voir les vieux pays. Alors, il se trouve que j'ai travaillé, parce que je travaillais déjà dans le dessin animé, j'ai travaillé un peu en Allemagne, après en France, et je pensais rentrer, mais finalement, je suis resté plus longtemps que prévu.
D'accord. Bon, en tout cas, on sait que vous êtes un grand voyageur, avec Chronique Birmane, avec Chronique de Jérusalem. On a pu constater cela, et cette fois, c'est l'expérience de Christophe André que vous racontez. Cet humanitaire français a été kidnappé en 1997 dans le Caucase. Il va rester 4 mois... cloîtré entre 4 murs avec une paillasse pour dormir, des bouillons en guise de repas. Et vous l'avez rencontré il y a 15 ans déjà.
Ouais.
À cette époque, vous l'enregistrez, je crois. Hein, c'est ça, pendant 2-3
voilà.
jours.
Oui, je pourrais avoir une. Dès que je l'ai croisé, enfin, il m'a raconté son histoire. Enfin, j'ai posé des questions et je connaissais les grandes lignes parce que j'avais lu son histoire dans le journal avant. Et j'étais assez fasciné de tous les petits détails du quotidien qu'il me racontait. Et d'emblée, je lui ai dit. Faudrait faire une bande dessinée avec ça.
Et pourquoi 15 ans d'attente?
Parce qu'après, il y avait deux choses. D'abord, c'est comme c'est un récit très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Il n'y a pas d'humour, c'est pas autobiographique.
Un petit peu d'humour quand même.
Ah ouais, pourtant, j'ai...
Bah si, il y en a.
une histoire de kidnappé, il n'y a pas beaucoup de place à l'humour. Et après, voilà, mes récits de voyage prenaient le pas là-dessus parce que je revenais de la Corée du Nord. Je me suis dit, je vais finir le livre sur la Corée du Nord pour l'avoir frais dans la tête. Et après, voilà. Et finalement, au bout de 15 ans, je me rendais compte que c'était une histoire que j'avais toujours envie de faire.
Ouais, donc,
je me disais, c'est peut-être un bon signe. Et voilà, je m'y suis mis, mais j'ai fait une version, deux versions. Et ça, finalement, c'est la troisième.
Alors, c'est un récit sous forme de huis clos, vos dessins souvent minimalistes, témoignent à eux seuls de la détresse absolue dans laquelle ils se trouvent. Comment a-t-il fait pour tenir? Parce qu'on constate vraiment que l'homme a une capacité incroyable à résister.
Voilà, ben moi c'est ce que j'avais envie de mettre, c'était le cœur de mon sujet, comment on tient dans un environnement aussi difficile où on est privé de liberté. Il n'y avait rien, une ampoule, un radiateur, il était attaché. Et c'est là qu'on voit la force de l'imagination, parce qu'il reste quoi? Et lui, il n'avait pas de lecture, il n'y a pas de crayon, donc il ne peut pas se divertir. Donc il y a les souvenirs et puis l'imagination. Alors c'est pour ça que ça s'appelle S'enfuir, hein, parce que lui, il s'enfuyait dans son imaginaire. Alors c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, qui est féru d'histoire militaire, plus précisément. Et du coup, il se refaisait des grandes batailles qu'il connaît par cœur. Donc il se refaisait Austerlitz, Azincourt. Mm-hmm. Et ça faisait passer comme ça quelques heures. Parce que le problème avec l'imagination, c'est qu'il pensait à bientôt, ça va être l'anniversaire de mon père, ou ça va être
le mariage de ma soeur
qui arrivait. Donc ouais. Au début, il pensait qu'il était là que pour un week-end, que pour 24 heures. Et après, une semaine passe. C'est pour ça que le livre est épais. Il y a une grosse pagination parce que je voulais qu'on sente le temps passer.
Comment êtes-vous sorti psychologiquement de ce travail, vous, Guy Delisle?
Moi ou Christophe, André?
Bah, vous, non, mais vous, vraiment, parce que vous êtes vraiment dedans.
À un moment, je me suis senti vraiment enchaîné à ma table comme Christophe était enchaîné à son radiateur, parce que c'était vraiment très minimaliste comme travail. Mais je le savais en partant, donc j'ai pris un grand souffle avant de partir et j'ai essayé de faire ça d'une traite parce que ça se faisait au quotidien, jour après jour, un peu comme lui était là, pris chaque jour à se demander. Est-ce que ça va être pour ce soir qu'ils vont venir me chercher? Donc voilà, il y avait un peu de ça dans mon travail.
On va donner la parole au libraire, vous êtes d'accord?
Oui, bien sûr.
Allons-y, France, Canada ou Suisse? On commence par qui, Guy Delisle?
Ah, la Suisse.
La Suisse, allez, Dominique Bressoux, c'est à vous.
Alors moi, j'ai trouvé ce témoignage graphique hallucinant. Dès les premières pages, on se retrouve dans la peau de l'otage, on est vraiment totalement avec lui. L'illustration très sobre avec seulement quelques points de vue différents, c'est extrêmement répétitif et c'est justement cela qui rend cette histoire hallucinatoire. C'était très risqué, mais pour moi, c'est totalement réussi.
Très bien. Mathieu Colombe, en France, êtes-vous d'accord?
Eh bien, plutôt, effectivement, comme vous l'avez tous remarqué, la ligne de Delisle se marie vraiment très très bien à l'histoire dans son dénuement. Ensuite, je trouve qu'il y a une monotonie apparente, en fait, dans cet écoulement des jours. Et en fait, ici, l'œuvre, une angoisse latente. Et on finit complètement absorbé dans l'histoire de Christophe, retenu par des gens ordinaires, pratiquement déshumanisés, et luttant pour rester lui-même. Et même si parfois le sujet peut donner l'impression de s'étirer, on vit quand même une histoire singulière et une aventure singulière à travers ce récit.
Eh oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, on est vraiment imprégné de cette histoire. Jérémy Laniel.
Ben, à notre grand plaisir, c'est encore une grande, très grande bande dessinée que Guy Delisle nous offre. Je trouve que S'enfuir, il y a une très grande maîtrise sur l'étouffement du lecteur. Il y a quelque chose sur l'ennui aussi. Il nous fait vivre le calvaire d'une façon très maîtrisée. Il parvient aussi à nous faire vivre, je trouve, il y a aucune futilité dans quelque sorte dans ce livre-là, même si on a pris le volume le plus volumineux de Guy Delisle, et il a pris son temps pour nous faire passer à travers le temps. Et c'est vraiment, encore une fois, je pense que Guy Delisle fait l'événement.
Voilà, l'avis de nos libraires. Guy Delisle, que vous pouvez applaudir. Vous êtes content.
Ah, ça serait dur de ne pas le mettre avec ça.
Son évasion à cet otage est complètement rocambolesque. À un moment, on le détache pour qu'il puisse uriner dans un seau. Mm-hmm. Et un soir, on oublie de revenir l'attacher. Alors du coup, il se retrouve les mains libres. Et il a la possibilité de partir.
Oui, il était dans le deuxième endroit où on l'a déplacé, et il y a eu un espèce de cafouillage. Donc on le rattachait après avoir mangé, et là il avait entendu des bruits parce qu'il était habitué au quotidien à connaître tous les bruits qui se passaient alentour, parce qu'il vivait dans une famille pratiquement. Et là ils ont oublié de le rattacher, et là il savait que dans cet endroit-là la porte ne fermait pas. Et il savait aussi autre chose, c'est-à-dire que c'est là où il a eu beaucoup de sang-froid. Il s'est dit, je peux pas sortir en plein jour parce que au milieu d'un village tchétchène, si on me voit, on va me ramener vite fait, et après ça risque de mal se passer pour moi. Donc il avait devant lui 2 heures avant que le soleil tombe, et c'est là où, quand il me le racontait, je me disais, faut absolument faire une bande dessinée avec ça, parce que pendant 2 heures il s'est torturé à se dire, oui j'y vais, non j'y vais pas, parce que c'est trop dangereux, si on me capture après je vais me faire battre, alors que jusqu'ici malgré tout ça se passe plutôt bien. Donc voilà, c'est ce déchirement face à quelque chose d'extrêmement simple, la liberté. On ouvre la porte, on l'ouvre pas. Donc ce questionnement-là me paraissait extrêmement fort et fondamental. C'est vraiment au milieu de mon récit.
Oui, c'est vrai qu'il y a le doute. Hein. Il y a ce doute-là, c'est terrible. Parce que c'est
déchirant, oui.
Après 11 jours, on se dit qu'il faut y aller, sauf qu'il peut se faire tuer. Et alors, il part comme ça sur la route, il ne sait pas du tout où il va. Alors, en plus, on est dans le Caucase, il y a des complicités. C'est une période très difficile, les étrangers sont pointés du doigt. Hein. On voit tout de suite qu'il n'est pas d'ici, quoi.
Voilà. Après, c'est absolument rocambolesque, parce que s'évader, c'est bien, c'est une belle chose, mais lui, il y allait étape par étape. Après, il se retrouve vers minuit, en plein milieu d'un village tchétchène. Mmh. Et après, l'ambassade, elle est où? Donc, il a marché. Après, il s'est blessé parce qu'il s'est rendu compte qu'après 3 mois de captivité, les muscles fonctionnaient plus. Hein.
Ouais, les pieds en sang, en plus.
Il avait malheureusement des chaussures sans qui lui déchiraient les pieds. Et c'est un peu christique.
On va laisser découvrir ce livre aux auditeurs. Et puis, il dit à un moment, j'ai l'impression d'assister à une pièce de théâtre où je tiens un rôle. C'est vrai qu'il est
Que d'autres gens m'ont relaté dans une situation de stress énorme. Il y a un décalage qui peut se faire, et il l'a vécu.
Merci beaucoup, Guy Delisle. Merci infiniment. S'enfuir est paru aux éditions d'Argo. Merci Catherine Mavrikakis. Merci Yann Martel. Merci Mémoire d'Encrier sur le plateau là-bas. À bientôt. Merci à vous. Merci au public de Montréal.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec le groupe français et féminin Junior.
Ça me fait froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique. Des frissons, je dégouline. Le cœur qui cogne dans ma poitrine. Quand dans ce trou noir de monde, je sens tout à coup que je tombe. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'ai plus rien, c'est physique. Comme un choc. Je te vois, je t'aime.
droite, je deviens gauche. Quand je fais mon chat en arrière-plan, à bout de nage, je sers les dents.
Panique, titre du groupe Junior qui évoque l'attentat de Nice, chanson que vous pouvez retrouver sur internet sur les plateformes légales de téléchargement et d'écoute en ligne. Et c'est la fin de cette édition. Toutes les infos, c'est sur la librairiefrancophone.com. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux pour communiquer avec vous. À la réalisation, Jacqueline Castonguet avec Marie-Hélène Girard au Canada et Serge Gandon en France. À la technique, Dominique Baudouin, Sylvain Brunet et Martin Massé. À la rédaction ici à Montréal, Jean-Philippe Véret avec Elsa Pépin et Sylvie Julien. René Mikils avec Valérie Elput en Belgique, Annick Chouin et Martine Beguin-Follet en Suisse. La semaine prochaine, nous serons à nouveau en public, donc à Radio France Faites le Livre, avec Tahar Ben Jeloun, Jean Ziegler, Nina Bouraoui et une surprise. Si vous êtes en France pour assister à l'émission, vous pouvez retirer vos places sur le site internet de Radio France. Très bon week-end à tous. Merci beaucoup Montréal. À très bientôt ici. Bon salon du livre. À bientôt.